Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
C'est dimanche et donc il est 22h01 et c'est la causerie qui commence comme quasiment tous les dimanches avec ce soir à la technique Clara.
Bonsoir.
Et autour de la table Jean-Yves.
Bonsoir, accompagné de Fab évidemment. Ah
ben bonsoir. Et donc si tu connais déjà la causerie, ce que je vais dire là tu l'as entendu 466 fois mais je recommence. Donc si tu veux nous joindre c'est lacausericanu@gmail.com.
Oui, on recommence toutes les semaines parce qu'on a toujours l'espoir d'avoir des nouvelles.
Bien sûr. Et moi, je vous dis, les nouveaux et les nouvelles, ils peuvent nous écrire à lacausericanu@gmail.com. Et si tu veux écouter le blog, c'est sur blogs, au pluriel, avec un s.radiocanu.org/lacauserie, où tu tapes Radio Canu, pas trop fort, et tu tomberas sur Radio Canu et tu cherches émission La Causerie et il y a tout ce qu'il faut. Sinon, on est sur les podcasts aussi, si tu nous cherches, et bah, tu nous trouves. Et du coup... Pardon, blague de boomer. Et donc du coup,
j'allais rajouter, Edouard, tu vas voir ta gueule à la récré. Alors t'imagines, là, c'est
blague d'ultra boomer. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, en fait, tu nous trouves sur les podcasts. Donc je tape bien La Causerie Canu. Et sinon, on se balade aussi sur des réseaux sociaux. Alors on est avec une page sur Facebook et on est partagé par ailleurs sur Mastodon et sur les réseaux libres. Voilà. Donc si tu tapes La Causerie Canu, tu devrais nous trouver ou hashtag La Causerie Canu ou hashtag Radio Canu. Enfin bref, tu nous trouves.
Ouais, et en tout cas, on peut remercier les personnes qui partagent la causerie toutes les semaines sur des réseaux dont on ignore même l'existence. Mais en tout cas, c'est sympa. Merci
bah oui,
beaucoup.
Merci. Et voilà. Et donc, on va démarrer cette émission en parlant d'un sujet fort joyeux avec toi, Jean-Yves.
Tout à fait. Ce soir, je vais vous parler d'une BD, à savoir Nos sincères condoléances, de Samuel Rimbaud et Guillaume Bailly.
J'avais prévenu que c'était joyeux.
Bien sûr. Qui a dit que la mort, c'était triste. Aux éditions L'Opportun, et c'est sorti fin de l'année dernière, 2022. En fait, c'est une adaptation en bande dessinée du livre, des livres, que Guillaume Bailly a sorti il y a un peu plus de 6 ans. En fait, c'était entre 2014, 2016, 2018. Il y en a d'autres qui sont sortis, enfin, des rééditions. Parce qu'en effet, en fait, Guillaume Bailly travaille aux Pompes Funèbres et est auteur de Mes sincères condoléances, hein, sorti donc en 2 tomes entre 2014 et 2018. Donc Samuel ou Sam Rimbaud, lui, est dessinateur. Il a plusieurs albums à son actif, hein, dont la majorité de ce que j'ai vu, en tout cas, sont à destination du jeune public. Donc il semblerait que c'est un peu sa première. Vrai BD, genre tu sais qui dénigre
mais non,
le public
ben
jeunesse. Non, je déconne.
Une de ses premières BD adultes.
Ouais, on va dire adultes. Ça. Ouais, on va dire ça. Alors, comme je vous le disais, hein, donc Nos sincères condoléances est l'adaptation en BD des livres de Guillaume Bailly. Et en fait, on retrouve ce dernier croqué par Rimbaud, qui nous accueille en fait dès l'ouverture du livre. Et qu'on retrouve plusieurs fois dans la BD, hein. C'est un peu notre guide, hein, s'agenouiller devant lui, mais c'est un peu notre guide dans cette BD. Ouais.
Guide au sens, le guide qui te fait visiter la ville, quoi.
Ouais, c'est un peu
pas
ça.
Dans le sens guide
touristique.
Voilà, guide touristique. domestique.
Ah non, pas un guide suprême. C'est pour ça que je dis ça, je ne mets pas devant lui. Sauf si c'est d'un commun accord, enfin bref. Donc vous l'aurez compris, hein, l'objectif est autant de faire découvrir ce milieu, les pompes funèbres, les métiers qui les composent, parce que les pompes funèbres c'est un grand terme, mais en fait il y a plein de choses dedans. Mais aussi les aventures que peuvent vivre en fait, hein, les professionnels du milieu. Et par la même occasion, en fait, défaire un peu les idées reçues, les préjugés qu'on peut toutes et tous avoir à ce sujet. Alors, je vais dire un truc un peu grossier, enfin pas grossier, mais c'est un peu exagéré, évidemment, mais non, les croque-morts ne sont pas lugubres. Ils ne sont pas squelettiques, au teint blafard, pour ne pas dire cireux, et ils n'ont pas de vautour comme animal de compagnie.
Mais c'est pas vrai, j'ai vu ça dans plein de trucs. Moi, j'ai vu ça dans Lucky Luke, j'ai vu ça dans des dessins sur le comment on appelle ça, sur Jack l'Éventreur dans la BD et tout. Alors moi, je sais qu'ils sont comme ça. C'est dans la BD.
Ouais, non. Mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça, quoi.
Hein. Ah, tu veux dire que c'est des caricatures. Ah, truc de ouf.
Ouais, c'est un truc en plus. Oh, les caricatures, que c'est mal. Enfin bref. On vivra donc des situations qu'a connu l'auteur, qui va de l'enterrement d'un défenestré auquel la famille n'a pas trouvé meilleure chanson pour lui dire au revoir que I believe I can fly. Vous voyez le délire?
Et non, ça doit pas être simple de pas se prendre un fou rire quand même.
Bah justement, c'est aussi ça le métier en fait, finalement, de porteur de cercueil et autres. Ouais. C'est de rester. Enfin, il faut qu'on reste sérieux et même quand on dit au revoir à un défenestré avec cette chanson. On va aussi à la veuve qui est un peu perdue en fait face à l'urne funéraire contenant son mari, vu qu'elle voyait son mari plus grand que ce que contient l'urne. Et là aussi, tu dis, mais c'est plus que tes cendres, en fait. Enfin, bref. Donc, c'est assez, assez rigolo. Ou encore, ce corps qu'il faut aller chercher dans un club libertin, au plein milieu d'une partouze, et dont la veuve est en train de baiser dans la partouze.
De partouzer, évidemment.
Donc, absolument. Tu dis, ah ouais, effectivement, il y a des situations qu'on n'aurait pas imaginées. Hein. Ou encore, cet entretien d'embauche plus que chelou. Je vous en dis pas plus, mais si vous ouvrez la BD, vraiment, vous direz, ah ouais. Lui, on l'embauche pas, hein, c'est sûr et certain, quoi. Ou cette mamie qui ne se rend pas vraiment compte que son mari est mort, mais que les voisins, eux et elle, ont bien senti.
C'est horrible.
Elle se disait, mais c'est pour ça que ça fait plusieurs jours qu'il ne me parle pas. Tout juste, il est mort. Donc voilà, on a aussi le droit aux déformations professionnelles, hein, en fait, qui sont propres à chaque milieu. Quand on met des corps en boîte, ça peut par exemple ressembler, quand deux agents funéraires boivent un verre en terrasse, à quel cercueil pour ceux ou cette passante ? Tu vois, selon les mensurations, c'est pas les mêmes boîtes, quoi.
Oui, mais c'est marrant, tu t'imagines que c'est le même genre de discussion qu'entre deux personnes qui seraient dans la mode, tu sais.
Mais
ah,
oui.
Mais tu la réhabillerais comment, quoi.
Mais oui, c'est exactement pareil. C'est juste un autre milieu. Ou aussi, la difficulté qu'ont parfois certains salariés à oublier leur travail durant des vacances et qui vont chercher. Les cimetières, enfin. Tu dis, ah ouais, ok, c'est sympa. On sent que c'est un peu lourd pour la famille, quoi. Hein. Pour la compagne, c'est un peu compliqué.
Mais en même temps, il y a un paradoxe, parce que les cimetières, c'est beau, en fait, je trouve. C'est triste, et en même temps, c'est souvent l'endroit le plus fleuri de la ville. Mais.
C'est vrai.
On peut dire comme ça, mais
selon
c'est
les films, oui.
Non, mais il y a des. Enfin, par exemple, tu vas à Paris, on te fait visiter le Père-Lachaise.
Non, mais oui. Et puis, t'as des spécificités en plus de cimetières, etc., qui sont propres à des territoires, en fait.
Je suis partie des gens bizarres qui aiment bien aller visiter les cimetières, donc voilà. Mais je suis pas dans
non,
les
non,
bons
filets.
Mais est-ce que je trouve qu'un cimetière, ça donne une. Comment dire, une image de la ville, des coutumes, des traditions, et qui.
Ah,
et, voilà, et qui sont parfois étonnantes. Enfin, moi, je me rappelle d'un cimetière qu'on avait visité, parce qu'on était ensemble. Où il y avait des verrières sur
dans la Creuse,
dans la Creuse, il y avait des verrières sur les tombes. Et
ils ne creusent pas.
Et voilà, mais ils mettaient des verrières avec des plantes dessous. C'était assez étrange. Et c'était
une coutume. En Guadeloupe, où c'est beaucoup. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la Creuse, par exemple.
Ouais.
C'est presque des habitations sur les tombes, quoi. Enfin, c'est très joli, c'est très esthétique, etc. Donc c'est.
Non, mais
on
du
peut
coup,
comprendre. Hein,
mais du coup, qu'on peut comprendre d'autant plus quelqu'un qui est du milieu, qu'il a envie d'aller voir un petit peu le truc, de dire ah bah comment ça se passe ailleurs, quoi.
Ouais, mais vu que c'est son métier, ça peut être un peu saoulé quand même, quoi.
C'est pas faux.
Il coupe jamais, quoi. Il coupe jamais.
Déjà qu'il rentre parfois avec des restes à la maison, alors.
C'est dégueulasse.
Pardon.
En plus de ces situations, hein, on aura aussi le droit à des explications de mots. Et je trouvais ça aussi assez intéressant et amusant, tel que croque-mort, par exemple.
D'où ça vient, ouais.
Ouais, d'où ça vient. Alors peut-être que vous, comme moi, on se plante depuis longtemps. Ce ne sont pas des gens qui mordaient les orteils des morts. C'est autre chose. C'est plus...
cynique.
Ouais, c'est plus cynique. Mais aussi, d'où vient mise en bière ou encore thanatopraxie. Et c'est toujours vraiment, c'est toujours drôle, léger. Et en même temps, c'est sérieux. C'est une vraie explication de texte, quoi, de mots. Et comme ça ne suffisait pas, parce qu'on s'emmerdait un peu, non je déconne, on a aussi le droit à des jeux tels que le labyrinthe. Genre, il faut partir d'un endroit du cimetière, aller de l'autre côté sans croiser le cortège qui suit le corbillard. On a aussi le jeu des silhouettes. Vous savez, quand on était petit, il y avait genre un personnage ou une situation, et il y avait des ombres, 5 ou 6 ombres sur la page d'à côté, en disant, il faut que tu retrouves l'ombre qui correspond. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est avec... un cadavre sur une civière. C'est tout, mais c'est marrant.
C'est tout, mais c'est drôle.
Mais oui. Et il y a aussi des mots croisés, hein, propres à ce milieu, ou aussi le jeu des 7 différences. Mmh. Ben oui. Donc vous l'aurez compris, en fait, hein, le but de ce livre est de découvrir un milieu, et aussi, et peut-être surtout finalement, de rire de la mort, de la dédramatiser. Et je dois dire aussi que j'ai beaucoup aimé le dessin, avec des couleurs qu'on retrouve tout le long du livre, en fait. Un mélange de gris, noir, bleu, gris, blanc.
On en parlait quand on préparait l'émission, c'est un peu les couleurs funéraires, hein, finalement.
Mais je sais pas, moi.
Ah bah, si, le violet bleuté, le noir.
Je sais pas, moi j'ai
blanc.
Grandi dans une culture où c'est le noir, quoi. Tu vois,
mais tu sais, le violet et noir, tout ça, c'est des couleurs.
Ouais, violet, non, ça, c'est une couleur trop vive.
Il y a beaucoup trop de joie dans le violet.
Oh là, on te rappelle qu'il y a un mort quand même.
Je ne connais pas.
Donc, j'en étais où ? Et donc, vous l'aurez compris, hein, j'ai aimé ce bouquin et de ce que j'ai pu en partager aussi avec les copains et copines de l'émission aussi. Parce que finalement, comme le dit aussi très bien une planche, en fait, si la mort est un sujet grave et pas drôle, parce que c'est la fin, qu'elle est inévitable et imprévisible, et ben alors autant finalement en rire tant que l'on est en vie, en fait. Mmh. Parce que dans tous les cas, on va tous et tout y passer. Donc voilà, donc je rappelle rapidement, c'est Nos sincères condoléances de Sam Rimbaud, d'après l'œuvre de Guillaume Bailly aux éditions L'Opportun.
T'aurais pas un petit exemple ?
Ah si, j'en ai une petite, c'est parce que il y a certains, c'est un peu compliqué sans l'image qui l'accompagne. Non, en même temps, je dis ça, c'est pas vrai, parce que finalement, le gars au départ, c'était un livre.
Ah oui, c'est des dialogues.
Mais là, ouais, je sais pas, c'est... Donc, c'est, le titre, c'est Chagrin. Maman est morte de chagrin. Ah ? Oui, elle me l'a dit et redit. Je meurs de chagrin de la mort de ton père. Effectivement, il y a des deuils dont on a du mal à se remettre. Ouais. Enfin, son agonie a quand même duré 57 ans et 2 remariages quand même. Hein. Ouais.
C'est léger.
Ah ouais, non, mais puis, après, il y a plein de trucs qui sont juste marrants, ça nous fait découvrir un milieu de l'intérieur finalement, et je pense que je vais craquer pour ces deux petits bouquins, parce que je crois qu'ils font même pas 100 pages chacun, et je trouve ça très drôle, parce que là aussi, encore une fois, toujours cette notion de prendre un peu de distance avec quelque chose qui touche toute l'humanité et qui nous touchera tous et toutes aussi.
La fin, c'est la mort.
Hein.
Voilà, c'est comme ça.
C'est ça.
Et c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au Bref de comptoir ou des choses comme ça. J'ai vu que là, il y a quelqu'un qui a fait aussi, qui est un balayeur dans les squares Paris et qui a fait des brèves de squares et qui sont très très drôles. Il y cherche un éditeur, je dis ça au passage. Mais je l'ai pu les lire. Il a fait un truc sur un réseau social. Ouais. C'est plutôt intéressant, et en fait il prend toutes les phrases comme ça qu'il peut entendre, et en fait voilà, je trouve ça drôle. Et justement je pense à ça parce que il y a une phrase dans les Brefs de Square où il y a deux mamies qui volent une plante dans le square, et donc il leur court pas après, mais il les croise, alors il leur dit mais pourquoi vous volez les plantes ici, et elle lui répond parce qu'il n'y en a plus au cimetière. J'ai trouvé ça très drôle et ça m'a fait penser ça, mais voilà. Mais en tout cas j'aime bien en fait le côté dédramatiser. Alors oui, comme tu disais, la mort c'est pas marrant.
Non.
Quand nous on la vit, on s'en fout un peu parce qu'on n'est plus là. Oui. Mais c'est plutôt quand c'est les proches qui meurent.
C'est quand t'es directement concerné par ton propre corps.
Ouais, alors oui, parce que pour ceux qui écoutent l'émission, nous on croit pas trop à la vie après la mort, tout ça, même pas du tout. Hein, même pas trop, on n'y croit pas du tout. Donc nous on sait que quand c'est fini, hein, donc nous après, c'est vous qui vous démerdez avec les restes. Mais par contre, c'est vrai que pour ceux qui restent, c'est compliqué parfois. Mmh. Et puis parfois réjouissant, parce que des gens, qu'on le veuille ou non, c'est un paradoxe aussi. Il y a des gens, quand ils meurent, on est presque content qu'ils meurent et on n'ose pas le dire.
Parce qu'il est
interdit de trouver la mort de quelqu'un positive, même quand c'était une saloperie et fini, et qu'on se dit finalement. Voilà.
Mais c'est pour ça que j'aimerais bien lire ces deux bouquins. Parce que finalement, je me dis, je pense qu'il y a aussi ces quatre figures. Parce que là, finalement, on est quoi sur une bonne centaine de pages? Ouais, 120 pages. Puisque la 119, elle est consacrée aux réponses des petits jeux. Et en fait, tu te dis.
Au cas où t'es pas trouvé les solutions.
Ah bah oui, il y a des mots que tu peux pas comprendre, ou t'as peut-être pas trouvé ton chemin dans le labyrinthe. Enfin bref. Merde, je me suis perdu.
Oui, tu disais, il y a peut-être ces quatre figures dans les livres.
Oui, c'est ça. C'est que, en fait, là, t'es vraiment sur une sélection, finalement, sur deux ouvrages.
Oui, oui.
Ça fait très peu de cas. Donc, je me dis, dans ces bouquins, on doit sûrement avoir l'exposition aussi de ces réalités-là.
Ouais, parce que le rapport à la mort est très culturel. Et finalement, nous, en France, c'est une culture très religieuse. Il y a des gens qui disent judéo-chrétienne, mais c'est pas que judéo-chrétien. C'est très religieux, très respectueuse de la mort, du corps, machin et tout. À tel point que même quand des gens horribles meurent, il faut surtout pas écrire des bêtises, il faut pas
faire de caricature.
Alors que franchement, enfin, il y en a quand ils seront morts, ils me feront autant gerber que quand ils étaient vivants. Hein, voilà. Et je trouve que c'est toujours un peu paradoxal, en fait, ce rapport qu'on a en France ou du moins peut-être en Europe. C'est peut-être pas tout à fait le même d'ailleurs partout en Europe. Mais en France, on a un rapport très étrange à la mort et qui moi m'a toujours un peu fait bizarre. Et moi, il y a un truc que j'ai relevé depuis longtemps, hein, malheureusement, quand tu enterres des gens, c'est que c'est toujours des gens formidables. C'est-à-dire
Il
y a déjà, tu sais qu'ils ont vécu, ils ont fait des trucs, tu sais que c'était pas terrible, hein, où ils étaient odieux, où ils étaient exécrables, et personne ose, par exemple, dire, bon, il était un peu emmerdant, mais c'est dommage, il est mort.
Oui, c'est-à-dire que pour les croyants, la mort, on va dire, nettoie de tous tes péchés, quoi, d'une certaine manière.
C'est pour aller au paradis.
Chez les non-croyants, ou en tout cas, ce qui peut y ressembler, on a vraiment quelque chose de très similaire. C'est-à-dire que.
Bah, parce qu'on t'inscrit dans un rite culturel, en fait, qui est culturel d'un côté et culturel de l'autre.
Mais ce qui revient même, c'est-à-dire, d'un coup, tu deviens une personne formidable, pure, croyant, alors qu'en fait, non, t'étais un humain avec peut-être des super bons côtés, d'autres peut-être très dégueux, on n'en sait rien, mais en tout cas, et qu'après, là encore, et même en France, je pense que c'est très propre aussi si t'es croyant ou pas, ou en tout cas, si t'as grandi dans un milieu croyant ou non, et puis de quelle croyance,
bien sûr.
Et puis donc, c'est très compliqué
mais il y a quand même une espèce de truc. Alors je vais dire un truc au micro là, je pense que s'il y a des libertaires et des anarchistes qui m'écoutent, ils vont me dire mais comment il ose dire ça. Mais moi par exemple, il y a une phrase que je ne peux plus lire, c'est la phrase que les anarchistes disent dès que quelqu'un meurt, que la terre lui soit légère. Alors juste, il est mort, alors dans son corps il y a rien dedans, la terre elle
lui sera rien, en fait
elle lui sera rien, et à la limite on peut le composter, c'est pas grave, voilà. Non mais et cette sacralisation à chaque fois de la mort de quelqu'un, moi me dépasse, parce que je me dis les gens, c'est triste hein, la mort, attention, mais j'ai perdu des gens très proches, j'ai pas été content de les perdre, mais à un moment donné je trouve que le simulacre qui est autour, je sais pas comment dire, enfin tout le flonflon qu'on met autour,
et
même dans des milieux qui se disent athées machin et tout, où on va te balancer cette phrase que la terre lui soit légère, mais qui est une connerie absolue. Mais on se dit, le corps, il s'en fout, il est plus là, quoi. À la limite, on pourrait, alors comme disait Jonathan quand elle était dans l'émission, on pourrait le manger, sauf que c'est toxique. Sauf qu'en fait, à un moment donné, on voit bien que ce côté sacré de la mort, je sais pas comment dire, il a imprégné notre société à un tel point même dans des milieux qui sont censés être hermétiques, en fait, à toutes les croyances, toutes les machins, on a quand même encore un moment de la mort, ce petit relent peut-être qu'il est encore là, quoi. Mais non, en fait, pardon.
Parce que je pense que c'est compliqué, c'est une longue affaire, en fait, de se défaire des choses.
Ah oui, c'est compliqué.
Sauf que pour s'en défaire, il faut déjà s'en rendre compte.
Ouais,
c'est le problème, c'est que quand tu parles de gens qui peuvent être anarchistes, on va dire matérialistes, etc., disent ce genre de phrases, c'est presque à se demander si c'est un automatisme ou si elle est réellement pensée. Parce que je pense si tu prends un pas de recul à te dire, donc là je viens de dire à un mort que la terre lui soit légère.
Oui, voilà quoi.
Ça n'a pas de sens en soi.
Aucun sens. Et surtout, mais surtout, ce que moi j'ai remarqué, c'est si tu l'interroges toi et tu dis, mais pourquoi tu dis ça, en fait,
d'un coup
on te dit, oh, bah quand même, il faut avoir du respect, il vient de décéder. Bah, c'est pas à lui que je manque de respect, c'est à toi que je te pose la question, donc, pourquoi tu lui souhaites ça quoi. Et en fait, ces mécanismes à déconstruire, et je trouve qu'effectivement, arriver à rire de ce moment-là, c'est aussi une façon de le désacraliser, parce qu'on le veuille ou non, on y passera tous et toutes, donc voilà.
Et tout ça, quand même, en partant d'une BD, donc je le cite, nos sincères condoléances aux éditions de L'Opportun, de Samuel Rimbaud et Guillaume Bailly, et je propose que nous passions à la musique tout à fait adéquate.
Opportune.
jusqu'au bout. Jusqu'au bout, donc, on a entendu cette formidable Maison Borgnole de Hubert Félix Thiéfaine. Un très très vieux titre, mais tellement bon. Et donc voilà. Donc c'était un peu une pub pour Rock Éclair, quoi.
Dans la causerie.
Et ouais, 15% sur suicide collectif. Enfin bref, après la mort, nous allons parler de la petite mort. Non, même pas. Mais de
non,
sexe.
Non, mais alors après Thanatos, voilà Eros, parce qu'Eros et Thanatos vont toujours ensemble, il paraît. Et donc on va, eh bah oui, on va pas, oui, il y a un peu de vrai dans tout ça. Et on va parler, bah du coup, on va parler de cul. Voilà, donc je vous le dis clairement, auditrice, auditeur, je vais dans cette chronique vous parler de sexe, de cul, de choses qui se passent parfois d'un point de vue anal. Bref, si tout cela vous gêne, je vous invite à revenir dans quelques minutes. Et si vous restez, bah, soyez les bienvenus dans le monde du pegging et de ce qui l'entoure. Voilà.
Revenez la semaine prochaine, quoi. Je veux dire, on va finir là-dessus, quoi.
Non, il y aura peut-être des brèves après.
Oui.
Voilà. Donc, on va effectivement parler pegging et émancipation. Alors, le pegging, ou en français, le chevillage, ou plutôt, comme diraient nos amis québécois, les chevillages, oui, parce que c'est eux qui l'appellent comme ça, okay. Est une pratique sexuelle où une personne pénètre l'anus de son ou de sa partenaire avec l'aide d'un gode-ceinture. Un gode-ceinture, je vous le rappelle, c'est un harnais où un gode peut s'ajuster comme un pénis à l'avant et entre les jambes de la personne qui le porte. Voilà.
Et pourquoi chevillage ? Pardon.
Ah ben, tu vois ça aux Québécois.
Ok. Hein,
et pourquoi ils font du magasinage pour ça ?
Non, non, mais je suis curieux.
Donc voilà.
Magasinage, donc, ça se tient.
Oui.
Par les magasins.
Bah,
oui.
Peut-être qu'ils voient ça comme une cheville. Une cheville.
C'est bizarre. Non, mais c'est...
Voilà, une cheville de bois. Voilà.
Ah, oui, les chevilles de.
Pour accrocher le gode.
Voilà. Ben voilà, donc c'est peut-être tout simplement
ça.
Donc c'est du chevillage. Bon. Okay. Donc voilà, c'est, je pense, un peu plus clair dit comme ça. Mm-hmm. Comme ça, vous voyez de quoi on parle. Mais vous vous demandez pourquoi je vous parle de cela ce soir. Eh bien, bah, je vais vous l'expliquer.
C'est plus vrai, aussi, ça. Pourquoi
aussi, bah, parce que j'avais envie. Alors, on va parler aussi de la, du moment, en fait, qu'on vit en ce moment. Entre le hashtag MeToo, les fantasmes et les envies. Alors, si la période MeToo semble quand même avoir aidé à l'émergence de rapports un peu plus équilibrés dans les couples hétérosexuels et homosexuels, il semble que cela ne soit pas vraiment le cas dans les pratiques sexuelles qui restent très axées sur une hétéronormativité assez marquée. Alors, je vais définir hétéronormativité, c'est-à-dire le fait que c'est le sexe hétérosexuel qui sert de norme à toutes les formes de sexualité et bien sûr le sexe hétérosexuel vu comme un sexe patriarcal.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est même voilà. Un sexe hétérosexuel normé en
normé,
fait.
Donc, patri- normé, donc normé par le patriarcat, voilà. Évidemment. Donc voilà, en gros, on baise, c'est l'homme qui dirige et la femme qui reçoit et basta. Voilà. Alors, ça a soulevé pas mal d'interrogations et plusieurs autrices et auteurs se sont penchés sur le sujet. Et si, au fond, l'égalité attendue n'était qu'une égalité sociale et pas une égalité réelle ? Parce qu'après tout, on peut avoir une égalité sociétale, voilà, mais pas une, ou sociale, et pas une égalité sur tous les plans de la vie.
Oui,
voilà.
Pas une égalité réelle,
voilà,
totale, complète, quoi.
Complète.
Donc pas d'égalité.
Ah, c'est-à-dire une égalité où chaque genre a son droit à la parole, au fantasme et au désir. Quel que soit son genre, voilà. Et plusieurs de ses écrits et études ont porté sur une pratique en particulier, le pegging et sa perception par les personnes potentiellement pénétrées, mais aussi celles qui souhaitent pénétrer du coup. Bah oui, parce qu'il faut autant avoir les deux côtés du gode ceinture. Bah oui. Alors, ce qui a mis cette idée en tête, en fait, c'est l'augmentation fulgurante depuis les confinements de la vente de stimulateurs prostatiques. Voilà, ces fameux godes au design pensé pour être utilisés pour stimuler la prostate de la personne qui se pénètre ou se fait pénétrer par l'objet. Et selon les marques, hein, ces augmentations, elles sont plus que notables parce que ça va de 33 à 60%, ce qui est quand même une belle augmentation, hein, quand on fait un produit. Voilà, surtout d'ailleurs chez les plus de 45 ans. Alors pourquoi ? Bah parce que c'est connu, on libère sa sexualité plus tard qu'on ne le pense et c'est un peu malheureux. Il faudrait qu'on y arrive un peu plus tôt, mais là aussi carcan, tout ça, tout ça. Et donc est venue donc cette question. Si l'orgasme prostatique devient de moins en moins tabou, qu'en est-il de l'idée pour les hommes hétérosexuels en premier lieu, mais pas que, d'être pénétrés ? Bah oui, logique. Là, ce sont les statistiques des sites pornographiques dans la même période, qui ont ouvert une voie pour s'interroger. En effet, durant les confinements, alors oui, vous vous souvenez, les confinements, c'était ce moment très sympa où
oui.
On était enfermés chez nous.
Et où donc des gens ont trouvé leur prostate.
Bah voilà, mais en fait, durant les confinements, c'est surtout que les demandes ont changé sur les sites pornographiques. Et on a pu constater que l'occurrence pegging, ou chevillage au Québec. Voilà. Plan à 3 avec pegging. Plan bisexuel à 3 ont vu en fait leur cote monter en flèche. Et l'une des explications apportées, notamment par les sociologues qui ont étudié les choses, c'est que le porno était peut-être à ce moment-là consommé non pas seul, mais en couple. Mmh. Et oui, parce qu'on était confinés tous ensemble. Mmh. Et qu'il s'agissait peut-être, pour une bonne partie, de se renseigner, entre guillemets, sur cette pratique. Voilà. Et en fait, quand ils ont interrogé, en fait, ils se sont rendus compte que c'était vraiment ça. Voilà. Donc c'était un peu, on l'estimait, et puis du coup, c'était vrai. Il fallait en avoir le cœur net. Et du coup, les sociologues américains, allemands et suédois se sont penchés sur le sujet. Oui, ça fait vraiment recherche internationale.
Sur un sujet. C'est parce que plus que.
Eh ben non, mais c'est pas si anecdotique parce que c'est notre rapport à la sexualité quand même. Hein,
donc, oui, je pense que si notre intime est encore bouffé par les carcans, c'est compliqué de rêver d'une société libérée des carcans.
Mais effectivement, ça peut paraître être un sujet futile et léger, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et autant le dire, en fait, les résultats de ces trois études qui ont été publiés sont à peu près similaires. Vous voyez, donc, voilà. Alors, ils font une remarque, hein, d'ailleurs, parce que j'ai lu un article qui reprenait toutes ces études, et il fait une remarque. Attention, ces études ont toutes été faites en ce qu'on appelle l'Occident. Okay. Voilà, donc il y a peut-être des différences ailleurs, il faut le noter. Donc, voilà. Donc, l'anal, c'est un fantasme, mais qui n'est pas nouveau. Ah, je vous avais prévenu, hein, ce soir, là, vous fallait partir. Ça vous va pas. Voilà. On le sait, hein, le porno a fait exploser le fantasme autour des pratiques anales, hein, et la pratique aussi d'ailleurs, parce qu'on pratique de plus en plus l'anal aujourd'hui par rapport à il y a 30 ou 40 ans en arrière. Mais ce fantasme, en fait, n'a rien de neuf. Hein, il suffit de lire le Marquis de Sade, Casanova et autres livres du passé d'un peu partout dans le monde, parce que c'est même pas propre qu'à l'Occident, parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où on parlait de pratiques anales, pour s'en convaincre.
L'humanité entière baise.
Ouais. Oh, ah, sinon, l'humanité entière ne serait plus là.
C'est ça.
Et donc, Et donc, si le fait pour les hommes en relation hétérosexuelle qui ont aujourd'hui, selon ces études, un fantasme de pratiquer la sodomie sur leur partenaire, arrive à une hauteur de 65%. Quand la question d'être à leur tour pénétré est posée, c'est là que ça change. On tombe à moins de 25% qui ont le fantasme de l'être, y compris par leur partenaire féminine. Voilà. Pourtant, il n'y a rien de plus universel chez la plupart des humains que d'avoir un anus pénétrable et situé en plus au même endroit chez tous les humains. Donc c'est ça qui est pratique, vous ne pouvez pas vous perdre. Voilà. Et surtout, et surtout, dans le même temps, ce fantasme, celui pour une femme de pouvoir pénétrer un partenaire, est exprimé dans ses études à plus de 60% de femmes qui disent « Je kifferais de tenter le truc. » Voilà, donc on est quand même... Donc il va falloir rééquilibrer tout ça. Hein. Comme quoi, c'est quand même plus répandu que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà. Parce que c'est des études qui étaient faites, comme on dit, de façon secrète. C'est-à-dire que c'est pas des gens face à face dans une pièce. Ils remplissaient des questionnaires qui étaient envoyés par la poste ou plissés-les. Et voilà, parce que l'idée, c'était quand même de... Parce que c'est un peu plus dur devant quelqu'un, je pense, de dire « Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire ?» Voilà, voilà. Donc, le pegging, c'est quand même l'art d'inverser les choses et finalement de se remettre à égalité. On va être clair, hein, l'idée n'est pas de dire que tout le monde est obligé d'aimer l'anal, c'est pas ce que je suis en train de raconter, mais bien de sortir des carcans patriarcaux qui semblent penser que seule la femme peut être pénétrée et basta. Et donc, entrer dans l'idée qu'avec un gosse ceinture, les perspectives peuvent légèrement s'inverser. Voire totalement.
Oui, pourquoi légèrement ? Voilà.
Beaucoup de femmes qui pratiquent le pegging le disent. C'est un moment fort et étonnant qui change totalement la perspective et qui semble, comme le disent certaines, offrir une possibilité de contrôle et de jeu au-delà de ce qu'elles imaginaient au départ. Voilà, ça c'est ce qu'elles ont répondu dans les différentes enquêtes. Et donc du coup, je suis allé à la pêche aux témoignages parce que je me suis dit quand même, on doit bien trouver des témoignages ailleurs que sur des sites qui finissent par XAM et avec des hamsters et qui ont des pornes et des hubes. Donc il y a souvent d'autres trucs. Et effectivement, quand on cherche sur internet, on trouve des témoignages écrits ou des podcasts ou des articles qui sont assez intéressants. Et d'ailleurs, ce que je vais dire là est plus axé sur le god ceinture que sur le pegging uniquement. On va élargir à l'outil plutôt que à la pratique. On a par exemple Cindy qui nous dit « La première fois que j'ai pris mon mari, j'ai eu une sorte de vertige. Tout était différent, je sentais son corps se tendre, le plaisir qu'il prenait, et moi, pour la première fois de ma vie, j'étais aux commandes de ce plaisir totalement. Ce sont mes mouvements, mes choix qui allaient en décider. C'est moi qui devais être à l'écoute, observer, et lui qui, dans un élan de totale confiance, se laissait aller. » C'est pas mal quand même.
Ouais.
On voit le truc. On a aussi Erika qui nous dit « Mon partenaire était du genre macho en public, très sûr de lui. Mais au bout de quelques mois, je constatais que quelque chose n'allait pas. Le sexe ensemble était mécanique. Il m'a d'abord demandé de pratiquer l'anulingus avec lui, puis de le pénétrer avec des jouets. Et un jour, j'ai acheté un gode-ceinture qu'on a appelé ensemble le braquemar. La première fois a été étonnante, folle. Tout chez lui a changé, sa voix même. Et c'est la première fois que je le voyais prendre un plaisir long et intense. Depuis que l'on pratique cela, et pas que cela, il est beaucoup moins macho en public, voire plus du tout. Comme si s'accepter lui avait offert la possibilité d'être lui-même.
Pas besoin de surjouer une pseudo-masculinité qui serait rattachée à... Enfin, c'est hyper intéressant.
Ouais, c'est intéressant, ouais. Je trouvais vraiment, vraiment très intéressant. Et on a aussi Andrei. Alors, je pense que ça se dit comme ça. C'est A-N-D-R-E-I-T-R-E-M-A, donc Andrei. Ouais. Qui nous parle. En tant que mec trans, il n'était pas sain d'imaginer pénétrer une partenaire. C'est Mina, ma chérie, qui m'a parlé du gode-ceinture, en me disant qu'elle trouvait cela fantasmant. On l'a acheté ensemble sur un site, et depuis qu'on l'a, on pratique ensemble aussi. On pratique ensemble aussi, pas toujours comme d'autres le pensent. Je la pénètre, mais finalement, elle aussi. C'est ça qui est cool avec le harnais ajustable. Je trouve la remarque très drôle. On a même découvert ensemble l'anal. On partage plus de complicité qu'avant, comme si ce petit secret entre nous avait ouvert des possibles ailleurs dans nos vies. Voilà. Et enfin, on a un témoignage qu'on entend peu. C'est celui de Jean. Alors, je l'ai trouvé sur un podcast qui s'appelle Les hommes osent parler. Je crois que c'est un peu le sous-titre du, le titre du podcast. Alors, c'est Jean qui parle. J'ai plus de 50 ans et j'ai toujours eu un micro-pénis. Je n'ai jamais fait de chirurgie de peur de perdre la sensibilité. Il m'a fallu divorcer et rencontrer ma compagne actuelle pour découvrir une chose aussi étonnante que le gode-ceinture. C'est elle qui m'a dit « Tu sais, ça ne me manque pas, mais si tu veux me prendre, on peut acheter un gode-ceinture. » Et elle m'a dit cela avec un naturel déconcertant. Et je dois avouer que ça m'a permis de découvrir quelque chose, le fait de prendre ma partenaire. Voilà. C'est intéressant parce que c'est plein de choses très différentes, mais qui finalement installent une confiance entre deux personnes, ou peut-être plus hein, parfois, et redonnent un sens, je ne sais pas comment dire ça.
De toute façon, après plus tu arrives à te libérer des carcans, des normes, des choses qui seraient soi-disant obligatoires, etc., des postures, des positions que normalement une personne avec un pénis est pas censée avoir, etc. Mm-hmm. En fait, plus on se libère de tout ça et finalement plus on s'émancipe.
Et mieux ça va.
Et mieux ça va, en fait. Et en fait, l'émancipation égale quand même, tu vas de plus en plus vers du bonheur, en fait.
Enfin, bah oui,
du plaisir, de l'existence, de ton individualité aussi. Et ça passe aussi dans le cul, quoi.
C'est dans ce sens-là que j'allais dans la suite, c'est qu'on, je disais, on voit. Non, mais pas de souci. Cet outil, qu'est le gode-ceinture, n'est pas qu'un outil de fantasme pornographique. Cela va bien au-delà. Et surtout, les sociologues allemands dont je vous parlais ont pu noter une chose. Les couples où l'idée a été discutée, sans même parler de pratique, sont ceux où les femmes se sentent le plus à égalité avec leurs partenaires dans les couples hétérosexuels. Selon eux, en fait, selon ces sociologues, c'est lié à une idée toute bête, que c'est ce que tu disais hein, finalement, sortir de la normativité, c'est s'ouvrir des possibles, mais c'est finalement aussi et surtout casser les schémas, les carcans sociaux et sociétaux, et au fond, envoyer une fois pour toutes chier le patriarcat. Voilà, donc ça c'est moi, c'est pas le sociologue qui a écrit ça. Le sociologue, il écrit pas, envoyer chier le patriarcat. Mais voilà, mais c'est intéressant, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est intéressant de voir que, ça ébrèche, où ça casse des schémas. Quoi.
En fait, de toute façon, tu reproduis les schémas ou tu reproduis des choses tant que tu ne les interroges pas, en fait. Et il ne s'agit pas derrière d'un coup, je ne sais pas, se mettre à pratiquer un truc, pas parce qu'on aime, mais parce qu'il faudrait pour se déconstruire.
Non, mais il ne faut pas créer
c'est
une nouvelle norme, c'est ce que j'ai bien dit. Hein.
Non, mais je ne dis pas c'est ça pour toi. Ça mais c'est, voilà. Ce qui fait que oui, en fait, à partir du moment où ne serait-ce que ça devient un sujet... Ben, en fait, d'un coup, ça apaise les choses, en fait.
Ouais, tout à fait.
Parce qu'on peut se dire des choses, etc., sans que ça n'engage à quoi que ce soit, et qu'en plus, effectivement, j'ai ce souvenir d'avoir un jour parlé avec un pote qui, lui, pratiquait la sodomie sur sa copine, mais genre, comme si c'était normal. Je lui dis, pourquoi, en fait? Enfin, tu sais, toi, en plus, t'as une prostate, donc elle pourrait venir te titiller, enfin, Ah ouais, effectivement. Et genre, enfin, on s'est revus des mois après. Il me dit, c'est un truc, c'est marrant, on en a discuté et que, en fait, elle le pratiquait plus parce qu'il faut, parce que moi, j'exprimais l'envie, mais pas forcément parce qu'elle aimait ça, en fait. Mmh. Et je trouve que c'est ça, en fait. C'est discuter d'un coup des choses, ça permet.
De ce qu'on a envie de faire,
de
vraiment.
De ce qu'on a envie, ouais. En fait. Et de que tester, dans le cul, il doit rien y avoir d'obligatoire, en fait. Il ne devrait y avoir que nos envies et des envies qui d'un coup deviennent communes parce qu'on en a envie, et tant mieux en fait. Mais dès qu'il y a obligation ou il faut pratiquer ça, laissez tomber, c'est qu'il y a un problème en fait, quoi. Il faut directement en parler, quoi. Enfin bref.
Ouais, non, mais c'est intéressant. Et du coup, il y a aussi une image qui est renvoyée dans le pegging, qui est liée beaucoup à la pornographie. C'est l'idée, en fait, que le pegging serait une forme de soumission. Parce que d'un seul coup, on se soumettrait. Et en fait, une chose qui ressort des pratiquantes et pratiquants, et on parlait en particulier pour le coup du pegging dans les relations hétérosexuelles. Alors, je vous rappelle, le pegging, c'est le fait de pénétrer son partenaire avec un gant de ceinture quand on est une femme, du coup, dans les relations hétérosexuelles. C'est qu'il s'agit, contrairement à ce que montre le porno, pour elle et eux, de confiance et pas du tout de soumission. C'est-à-dire, c'est un rapport de confiance, de plaisir partagé, de moments partagés, et pas du tout le fait d'être soumis à que la femme ne soumet pas l'homme. Vous voyez,
mais parce que c'est la vision patriarcale de la, ouais, de la pratique de la pénétration, en fait.
Parce que c'est ce que je disais.
Ah, pardon.
En fait, dans l'imaginaire pornographique, les femmes à gode ceinture sont souvent représentées comme dominatrices et soumettant leur partenaire pénétré. Et en fait, dans une inversion finalement des reproductions au fond de la notion pénétrative patriarcale, ce que tu disais. Sauf qu'en fait, dans les études que je citais, hein, les trois endroits, les personnes qui aiment la soumission, elles sont pas plus nombreuses que dans la société en général, quand elles pratiquent ou pas le pegging. Mmh. Et en fait, elles tournent autour de 20%. Mmh. C'est-à-dire, il y a à peu près 10% de gens qui aiment être soumis et 10% de gens qui aiment être dominés, hommes comme femmes. Et c'est, comme ils disent dans l'étude, ça change rien. C'est la pratique sexuelle n'induit pas une plus grande envie de soumission ou de domination.
Oui, c'est pas la pratique qui fait que tu aimes la soumission ou la domination.
Ouais, c'est ça.
Parce que la domination et la soumission, tu peux les trouver dans plein d'autres pratiques, en fait. Quoi.
Donc, il n'y a pas de lien direct entre pratique du pegging et soumission. Et au contraire, d'ailleurs, les répondantes et répondants le disent, il s'agit en fait de confiance, de lâcher prise et d'acceptation de son plaisir. Et au final, de complicité. C'est ça qui ressort le plus, c'est que c'est un acte sexuel complice. Voilà. Alors, si vous avez envie, eh bien, lancez-vous. Bon, du coup, si l'expérience vous tente, lancez-vous après en avoir parlé avec votre partenaire, c'est mieux quand même, parce que ça peut un peu surprendre. Voilà, donc parlez-en. N'oubliez pas le lubrifiant et de bien nettoyer vos outils après, hein, comme pour tous les jouets sexuels. Et on rappellera ici que le latex se lave avec du savon, il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais surtout, amusez-vous, prenez du plaisir, et que finalement, crève les normes, les limites et le patriarcat. Éclatez-vous.
Ben ouais, et pardon, mais j'ai une question.
J'ai une question.
C'est pour un ami à moi. c'est le cousin d'un cousin qui me demandait. Non, je déconne, mais sur cette notion de pénétrer l'autre, est-ce que le gode ceinture, il permettrait pas aussi, par exemple, de jouer la fellation pour un mec?
Ouais, tout à fait. En fait, c'est la pénétration au sens large.
Ok.
Alors, sauf que l'acte du pegging est vraiment la pénétration anale. C'est pour ça que je l'ai bien dit. Après, ça permet toutes les pénétrations possibles, évidemment, et ça permet effectivement de faire une fellation. Ça permet, voilà, tout est possible, il n'y a pas de limite, si ce n'est que, et là je le redis parce que je l'ai lu dans le truc, attention quand on fait une fellation parce que c'est du latex, donc voilà, il faut faire gaffe de pas emmener des morceaux.
Ah oui.
souvent les gosses sont enceintes.
Bah, c'est une bonne manière d'apprendre de ne pas
les
mettre
dents.
Les dents.
Oui, mais comme là il n'y a pas de sensibilité directe, tu vois.
Clara est touchée par notre poésie.
Par contre, c'est vrai que ça permet effectivement d'imaginer plein de pratiques.
Oui, c'est ça en fait. C'est aussi
ce qu'ils disaient dans les études. Ils se sont un peu concentrés sur le pegging du fait qu'il y avait une augmentation sur les sites porno et qui n'était pas une augmentation faible, hein, parce qu'il y a des sites qui ont eu des plus 300, plus 400%. Donc on est quand même sur des demandes qui ont explosé, et c'est pas négatif, mais c'est comme ça. Mais ça les a intrigués, parce que c'est de se dire, mais.
En même temps, deux ans de confinement, je veux dire, si t'as fait les thèmes généraux, tu te dis, bon, allez, on va partir un peu dans la marge, on va aller voir ce qui s'y passe. C'est peut-être
ça. Non, mais en fait, alors justement,
c'est le bon côté aussi du confinement.
Ouais,
quoi,
c'est pas faux. Mais en fait, voilà. Mais après, c'est ce qu'il disait, c'est que il faut pas se limiter à cette pratique-là. Il y a plein d'autres pratiques qui existent. C'est aussi le fait, par exemple, de pouvoir jouer avec des jouets et son ou sa partenaire, de faire entrer dans sa libido et dans sa pratique sexuelle d'autres outils pour donner du plaisir. Et en fait, tout ça, en fait, ils disent, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça vient interroger les normes et ça vient interroger le patriarcat. Et notamment le fameux truc du un mec ça bande et si ça bande pas c'est pas un mec. Et en fait bah il y a donc il y a j'ai pas pris le temps de tout écrire mais il y avait des témoignages, il y a des gens qui expliquaient que ben eux ils arrivaient pas à avoir une érection longue et donc du coup bah ils ont adopté soit le god ceinture soit le god tout court parce que ils se sont dit bah après tout si ma partenaire ou mon partenaire a envie d'être pénétré, je dois pouvoir le faire et on peut le faire comme ça aussi.
Ouais.
Et en fait, c'est devenu un jeu, il y en a qui disaient bah c'est même devenu amusant parce qu'après bah ils choisissaient la couleur,
ah ouais.
La forme, bah attends, moi je préfère ça, moi j'aimerais ouais. enlever ça et que du coup bah ça amenait une autre complicité et qui était finalement dédramatisante par rapport à la norme patriarcale du faut bander à tout prix, prends du Viagra et ne fais-nous pas chier. Et en fait, bah il y a un mec qui parlait de ça justement qui disait que lui pendant 10 ans, il a pris du Viagra, que ça lui filait des maux de tête pas possible à chaque fois et que c'était assez compliqué et que du coup un jour c'est une de ses partenaires qui lui a dit mais pourquoi tu te fais chier quoi en fait si t'es pas bien après quel est l'intérêt d'être pas bien alors que le but c'est de prendre du plaisir.
Toute ta sexualité qui ne t'oblige pas.
Bah oui et que donc du coup ils avaient trouvé d'autres moyens et il expliquait que bah il a découvert qu'il était très sensible d'autres endroits de son corps, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient très bien, que voilà et que du coup bah voilà ça fait partie des jeux et que c'est en déconstruisant finalement nos carcans qu'on arrive à aller vers plus de plaisir et généralement quand on va vers plus de plaisir on va mieux.
Oui.
Globalement.
Grave.
Voilà.
Eh bien, très bien. On passe à la zik.
Ben oui.
Allons-y.
Et c'était La Petite Fumée, La Petite Fumée, pardon, et Mandragora dans La Causerie avec le titre You See Me. Voilà.
Ok.
Moi j'aime bien.
Très bien.
Ça tapait bien. C'était bah, oui. Tough à mort.
Ça nous rappelait notre jeunesse.
Oui, tu te souviens quand on allait dans les champs. Alors donc du coup,
on là maintenant c'est le.
Quelques
brèves.
Ouais, c'est l'agenda. Donc ça commence du coup mardi 17 janvier à 18h30 au Palais du Travail à Villeurbanne. Alors le Palais du Travail à Villeurbanne, c'est derrière la mairie de Villeurbanne. C'est au métro Gratte-Ciel, au bout de l'avenue Henri Barbusse. Et du coup, c'est les accords de libre-échange et leurs impacts sur les politiques locales. Et c'est avec Maxime Combe. Et c'est proposé par Atacrone. Voilà, 18h30.
Très bien, le rendez-vous suivant, vous vous en doutez, c'est jeudi 19 janvier. Alors à Lyon, le départ de la manif intersyndicale sera à 11h devant la manufacture des tabacs, métro D, arrêt sans souci. Et évidemment, vous aurez compris que c'est contre la réforme des retraites voulue par le pouvoir politique en place. Et souvenez-vous, que pendant qu'on nous réclame pour un déficit de 12 milliards pour le système des retraites, il y a 80 milliards qui tous les ans qui partent en fumée dans l'évasion fiscale, il y a des centaines de milliards qui partent dans les poches des actionnaires, qui sont offerts au patronat sous la forme de CUCE, etc. Donc réclamer que cette loi ne passe pas et qu'on puisse faire encore mieux, c'est-à-dire partir plus tôt.
Moi je suis pour la retraite à 55.
Mais grave, et ben il y a largement les moyens de faire.
C'est finançable.
Il y a largement l'argent, c'est juste qu'il faut oser le chercher, sauf que le pouvoir politique, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, là c'est celui-ci, l'année pas la prochaine fois ce sera un autre, et ben ils sont toujours là pour vouloir protéger leurs petits copains les riches et que nous on aille se tuer à la tâche, donc n'oubliez pas cela, nous sommes tout à fait en position de réclamer que ça ne passe pas
tout à fait,
de vouloir beaucoup plus que ça.
Et si vous allez sur le blog de Radio Canyon, vous tapez retraite, et on avait fait plusieurs émissions ouais. dessus, donc c'est l'occasion de...
Le blog de l'émission.
Ouais, le blog de l'émission.
Ouais,
le blog
de Radio Canyon.
Ah, le blog de La Causerie,
oui,
pardon.
C'est ça.
Sinon, alors, du coup, le 19 au soir, quand vous aurez bien marché toute la journée, parce que vous vous dites, tiens, j'ai envie de me poser un peu, bah, vous irez voir une conférence gesticulée, si vous avez envie, de Philippe Cazeneuve, qui s'appelle L'écran. Méchant loup, point d'interrogation. Et c'est à la MJC Mon Plaisir dans le cadre de, du festival des conférences gesticulées Agitons nos idées. C'est la 6e édition.
Très bien, le rendez-vous suivant, eh ben c'est samedi prochain, donc le 21 janvier à 15h, c'est à la librairie La Griffe que ça se passe, et c'est une rencontre avec l'autrice et journaliste Christelle Murula autour de son ouvrage Amour silencieux, repenser la révolution romantique depuis les marges, publié par les éditions Daron. Et en fait, c'est, alors je lis quand même la quatrième de couverture, si la révolution de l'amour relancée par de nombreuses figures féministes en France a été vitale pour certaines femmes, d'autres ont été mises de côté. Les femmes racisées, les pauvres, les banlieusards, les handicapés, les mères célibataires, etc. Pour toutes celles qui sont prises entre de multiples systèmes oppressifs, réinventer l'amour devient un luxe. Dans cet essai, la journaliste, donc féministe et journaliste indépendante, décortique le discours existant, les normes hétéro-romantiques et l'inégal accès à l'amour des femmes selon leurs origines ethniques, géographiques et sociales. Un livre qui souhaite remettre au centre de la conversation les silenciers de cette réinvention.
Ça a l'air hyper intéressant. Et sinon, c'était quand ?
Samedi 21.
Samedi. Et bah, samedi aussi, il y a une collecte de vêtements qui est lancée par l'Union communiste libertaire de Lyon, l'UCL, avec le collectif anti-CRA et le collectif de soutien aux migrants de la Croix-Rousse. Donc c'est, l'idée, c'est de ramener des vêtements chauds, hein, parce que ça commence à cailler sévère, à destination des migrants qui sont aidés, et aussi des prisonniers et prisonnières du CRA. Oui, parce qu'alors, on va rappeler que dans les CRA, on ne donne pas vraiment de vêtements.
C'est
aux
ça.
Gens. Donc, voilà. Cette collecte, elle a lieu donc à la Plume Noire, entre 15h et 17h. Voilà. Et ce sera donc. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Et il y a aussi. Le 18 janvier, c'est quand ?
C'est.
Pardon, excusez-moi, mais.
C'est mercredi.
Alors, vous pouvez aussi y aller mercredi de 17h30 à 19h30. C'était un peu mal écrit sur leur annonce, désolé. Et aussi, donc, le 21 janvier de 15h à 17h. Voilà.
Okay.
Et donc, amenez vos vêtements.
C'est très bien, et vu que tu parlais de CRA, eh ben le prochain rendez-vous c'est toujours samedi 21 janvier, donc à 17h, c'est un rendez-vous devant le CRA 2 en soutien aux prisonniers et prisonnières. Et c'est en lien évidemment aussi avec le gouvernement qui s'apprête à faire passer une nouvelle loi raciste et xénophobe, dite loi Darmanin. C'est marrant, on dirait des... synonyme. Celle-ci prévoit d'augmenter fortement les expulsions d'étrangers et d'étrangères, de systématiser le recours à leur enfermement, avec le projet déjà lancé de créer 3000 nouvelles places en CRA, donc en centre de rétention administrative, des prisons qui ne disent pas leur nom, pour expulser les étrangers. Et donc ces 3000 places, c'est d'ici 2027. C'est demain, quoi. Oui. Voilà. Donc c'est rendez-vous devant le nouveau CRA qui a ouvert à Lyon-Saint-Exupéry depuis janvier 2022.
Et sinon, le samedi... toujours 21, vous pouvez aussi aller à la 13e édition de la Nuit du cinéma militant, c'est à la MJC du Vieux-Lyon, c'est dans la salle Léo Ferret, au programme la projection de 5 films à partir de 16h, oui parce que la nuit commence tôt, et bah oui, mais...
voilà. À 5 films, oui.
Oui, oui, c'est pour ça, et donc voilà, donc je vous laisserai découvrir le programme, je ne vais pas vous le détailler, la seule chose c'est donc qu'ils disent... Ta-ta-ta-ta-ta. Ah oui, il est préférable de téléphoner à la MJC du Vieux-Lyon. À la MJC du Vieux-Lyon, c'est 5 places Saint-Jean dans le 5e. Voilà, ou sinon vous allez sur mjcduvieux-lyon.com.
Tout à fait. Eh bien, très bien. Et on est encore une fois à l'heure cette semaine. C'est incroyable. Vraiment, c'est fou. Eh bien, on va se quitter. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain.
Avec
on
des
sera
invités.
Le 22. Du 22.
22.
On sera le 22, on sera avec des invités, dont Mathieu Rebière. Ouais. On causera des rues de Lyon, des numéros de janvier et février, normalement. Donc, on vous donne rendez-vous. Et ça parlera autour de l'impression de résistance, de guerre, et voilà.
C'est un joli les programme. Imprimeurs résistants.
C'est exactement ça. Mais je vais pas trop en dire, toi, mais c'est un suspense.
Ah oui, bah oui, alors l'impression de résistance, c'était bizarre comme expression. J'ai l'impression que je résiste, mais en fait.
Ah ouais. C'est parce que vous êtes pas dans ma tête.
Bah, et, oui. Non, et heureusement.
J'ai pensé très fort aussi.
Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Alors, on va se quitter en musique et c'est Clara qui annonce le dernier titre.
Oui, on se quitte avec Kim Palo et le titre For the Glory.
Yeah, your English is very good.
Thank you.
Where is Brian? Brian is in the kitchen.
Allez, on y va.
Allez, bonne semaine, bon courage, bonne lutte pour celles et ceux qui peuvent y aller. Ouais. Soyez des millions. Ce serait formidable pour un début.
Et des bisous.
Des bisous.
Ciao. Salut.